Allez Alfred, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est vous qui êtes dans la tourmente ou la CFTU qui l'est une fois de plus?
Je crois que la CFTU est dans la tourmente. Moi, je suis en charge de gérer les choses. Et donc, à ce titre, j'assume sereinement, résolument, avec l'intention de faire en sorte que nous allions vers des choses souhaitables.
Revenons à la CFTU. Samedi matin, en pleine manifestation foyalaise, vous apprenez que l'ensemble de votre matériel, celui dont vous avez la charge, n'obtient pas l'autorisation de sortir du dépôt, et sur l'ensemble du réseau, les bus ne circulent pas.
Oui, tout à fait. Alors, le samedi matin, la salariée qui a été licenciée a procédé à un blocage de notre dépôt à Almadi.
La salariée, vous dites ?
Oui, la salariée accompagnée du syndicat majoritaire Sud, qui l'a aidé en la matière, et aussi au CDM, au centre de maintenance du Larenti, pour ce qui est des bus à haut niveau de service, ils ont agi pour interdire la sortie des bus. Alors, il s'agit pour eux, dans ce cadre-là, de voir avec les chauffeurs un mot d'ordre. Et sur Almadi, il a fallu effectivement calmer le jeu entre les différents membres du personnel, notamment les chauffeurs. Il y en a qui voulaient sortir. Et donc, nous avons dû calmer le jeu de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'impair qui soit commis entre les chauffeurs et la salariée concernée.
Et quand les bus sont arrêtés, Alain Alfred, vous qui est le dirigeant de la CFTU, vous n'êtes pas informé qu'il y aura un mouvement de grève, vous n'êtes pas informé qu'il va se passer quelque chose, et vous apprenez, c'est-à-dire, je suppose qu'on vous appelle tout de suite.
5 heures du matin, on m'informe que les bus ne sortent pas. Alors que la veille, puisque j'ai été interpellé, j'avais dit aux représentants du personnel, notamment le délégué syndical de Sud, que j'étais prêt à discuter avec eux, y compris en présence de la salariée, dès le lendemain, puisque la veille au soir, en début de soirée, je leur ai indiqué ça, et ils avaient convenu avec moi de rendez-vous à 11h le samedi. Alors le matin, on a eu un débrayage parce que je n'ai pas eu de préavis de grève, je n'ai pas eu d'alerte qui autorisait les conducteurs à exercer un droit de retrait pour péril grave et imminent. Je n'ai eu de droit d'alerte de déposer par le CHSCT, donc la représentation du personnel dans le cadre de la commission d'hygiène et de sécurité. Je n'ai eu ce droit d'alerte posé que le dimanche, puisque j'ai encore négocié le dimanche avec eux, discuté avec eux le dimanche, à 11h45, j'ai reçu ce document qui posait les points sur lesquels nous avons discuté aujourd'hui comme des points de blocage. Donc il y a désormais, depuis dimanche 11h45, une alerte du CHSCT, un droit d'alerte du CHSCT. Ce droit d'alerte peut permettre à chaque salarié individuellement d'exercer son droit de retrait, et cela peut se faire collectivement. Donc chacun prend sa décision, mais le phénomène peut être collectif et c'est couvert par cette alerte.
Juste une petite minute. On reviendra sur les détails. Ce que je voudrais aussi, c'est que nos auditeurs essaient d'avoir les différents éléments clés. Donc, à ce moment-là, vos bus, vous apprenez en tant que dirigeant que les bus ne roulent pas, que les usagers n'ont pas de... Est-ce que, par contre, les sous-traitants roulent?
Alors, normalement, les sous-traitants et co-traitants pouvaient rouler. À une chose près, c'est qu'il y a les personnels de la CFTU sont en charge du contrôle, de la supervision et de la régulation.
Et donc, alors qu'il n'y a pas le contrôle, voilà. Le système de sécurité n'est pas confirmé, donc ils arrêtent eux aussi de rouler. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de bus sur Fort-de-France, c'est bien ça?
Sur l'ensemble du réseau. Donc samedi, il y a eu quelques bus des co-traitants. Aujourd'hui, il était question que les co-traitants nous ont confirmé leur souhait de sortir et de faire. Maintenant, nous savons, nous connaissons le dispositif classiquement. À partir du moment où une partie du réseau n'est pas couvert, l'ensemble du personnel considère, et ça, toute entreprise confondue, que la sécurité n'est pas couverte parce qu'il y aura des surcharges sur des bus, sur des lignes, il y aura énervement et donc tout le monde se met en retrait, en droit de retrait, pour péril grave et imminent.
D'accord. Alors, très bien, Alfred. Donc, nous sommes samedi matin et vous avez procédé, vous, en tant que dirigeant de cette boîte, pour des raisons que vous estimez, disons, suffisantes, vous avez procédé à un licenciement d'une salariée. Alors, ce licenciement, il s'est passé quand ?
Alors, ce licenciement a eu lieu au 31 du mois dernier, au 31 octobre, pour des faits qui se sont produits deux mois avant. Et donc, entre-temps, la salariée est partie en accident de travail, en arrêt de maladie, en formation. Donc, la convocation en entretien préalable a été faite dans les délais et dans un cadre contraint, puisque bon, nous savons que dès lors que la salariée est en accident de travail ou en arrêt maladie, on ne peut pas agir. Alors, l'accident de travail de cette salariée, contrairement à celui de l'autre salarié qui s'est estimé victime
de la première.
Oui, donc son arrêt de travail, son accident de travail n'a pas été accepté par la sécurité sociale. Après, elle est partie en arrêt maladie. Donc, on a assisté à une situation où l'entreprise, en tous les cas l'employeur, pouvait être mise en échec quant à la gestion de cette situation de conflit. Je rappelle quand même que le salarié qui s'est dit victime a saisi et interpellé la direction du travail, donc l'inspection du travail, et déposé une plainte. Ce n'est jamais que la deuxième plainte qui est en cours depuis quelque temps, à l'endroit de cette même salariée.
D'accord, Alain-Alfred. Donc, on continue d'avancer. Nous allons revenir sur la procédure en elle-même, mais je voudrais que vous puissiez nous redire le motif qui est arrivé à vos oreilles en tant que dirigeant, ou qui a été précisé, est-ce qu'il y a eu un courrier, une plainte d'un autre salarié. Quel motif vous a-t-on donné ?
Alors, d'abord, nous nous sommes saisis de la question et avons convoqué un entretien préalable à licenciement.
Oui, ça veut. Attendez, je reprends ce que vous venez de dire pour qu'on comprenne bien. Ça veut dire que c'est vous, direction, absolument, qui vous êtes saisi de ce dossier. Vous n'avez pas eu de plainte ?
Si.
Vous avez une plainte du premier personnel. Absolument. Et vous vous êtes saisi de ce dossier et vous avez commencé votre procédure de licenciement.
Tout à fait.
Mais je reviens sur les faits. Qu'est-ce qu'on vous a dit, Alain-Alfred ? Qu'est-ce qu'on vous a dit qui s'est passé ?
Alors, il y a eu une agression.
Verbale ou physique ?
Verbale. Et avec injures, insultes. La salariée a été menaçante vis-à-vis de son collègue.
D'accord. Alors, on répète que qu'il n'y a pas de différence hiérarchique entre ces deux collègues. Hein, c'est-à-dire que ces deux collègues qui travaillent ensemble tous les jours. Peut-être qu'ils s'étaient très bien il y a une minute avant. Et puis, il paraît que c'est une histoire d'ordinateur. Il y en a un qui demandait l'ordinateur c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous est ? Parce qu'on veut comprendre. Alors, on veut comprendre le problème.
Alors, le problème qui s'est passé, le premier problème, parce que l'histoire de l'ordinateur, ça s'est passé ce samedi. Parce que la salariée licenciée est retournée dans l'entreprise et s'est retrouvée face justement à sa victime. Alors, le conflit dont nous nous sommes saisis, dont on nous a saisis, puisqu'il y a un rapport, il y a une interpellation de l'employé victime, qui est exactement, c'est un collègue qui travaille dans le même service.
Oui, deux collègues hiérarchiquement égaux.
Égaux. Hiérarchiquement égaux, et lequel, alors sur ce conflit, en réalité, la salariée est venue, et il y avait un conflit d'utilisation du véhicule, du service. La salariée en question n'était pas programmée, elle ne travaillait pas le matin, c'était son collègue qui devait faire le service, puisqu'ils sont dans un service de logistique. Et donc, la salariée a voulu prendre le véhicule.
Sans raison.
Sans raison, puisqu'elle n'est pas programmée. Et elle a eu altercation avec son collègue qui lui faisait remarquer que c'était lui qui travaillait. Et donc, cette salariée...
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre personnel, lorsqu'on a besoin d'une voiture, on vient à la CFTU, on la prend. C'est ça que ça veut dire, Alfred?
Eh bien non, normalement, ce n'est pas comme ça. Les véhicules de service sont faits pour besoin de service. Et donc, la collègue en question n'avait pas de lieu d'être dans l'entreprise
à cette heure-là.
À cette heure-là. Et il n'y avait pas lieu non plus de se quereller avec son collègue sur l'utilisation du véhicule. Alors, il faut dire aussi que, c'est une collègue qui a déjà eu maille à partir, y compris s'en est arrivé aux mains avec d'autres membres du personnel.
Oui, alors vous dites que ça en est arrivé au même, mais il paraît que c'est dans l'autre cas que c'est le premier personnel qui l'avait agressé et qu'elle aurait répondu.
Ce n'est pas ce que nous avons. Nous sommes d'ailleurs au prud'homme avec elle parce que nous l'avons sanctionnée d'une mise à pied. Nous avions considéré, compte tenu des éléments du dossier, parce que nous avons des rapports, nous avons des éléments qui constituent le dossier, et qui nous avons considéré qu'elle était l'agresseur.
Très bien. Donc, alors, Alain Alfred, on continue toujours, on essaie toujours de comprendre. Donc, maintenant, on a le motif. Le motif que nous donne la direction, c'est agression. Quelqu'un qui vient prendre une voiture de service un jour où elle n'est pas programmée dans le service.
Absolument.
D'accord, c'est ça. Vous me confirmez que c'est ce que vous
Absolument.
Dites.
Absolument. C'est d'abord ça, la raison. Alors, c'est l'agression vis-à-vis de son collègue, alors qu'elle n'a pas lieu d'être dans l'entreprise.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a injurié, c'est ça?
Elle a non seulement injurié, elle a été menaçante, elle a été insistante, et donc le collègue qui connaît et qui peut maîtrise, qui a déjà subi un certain nombre de situations particulières, il en a, en tous les cas, il a déposé un accident de travail qui a été validé par la sécurité sociale.
Très bien.
Et il a saisi par ailleurs l'inspection du travail.
D'accord.
Qui nous a interpellés quant à elle.
D'accord. Alors, très bien. Donc, vous êtes le dirigeant de cette boîte. Vous voulez mettre un milieu dans ça. Enfin, je veux dire, c'est votre job, quoi, de mettre de l'ordre.
C'est ma responsabilité. Alors, un employeur est redevable à ses salariés de la sécurité. Ça, c'est à minima. Et puis, il y a d'autres choses. Du salaire, etc., de l'organisation, de la bonne organisation des choses. Mais la sécurité est une responsabilité de l'employeur. Et donc, tout salarié qui se considère comme étant en difficulté, d'ailleurs, c'est pour cela que souvent, on a des droits d'alerte et des droits de retrait. Dès lors que le salarié se sent en difficulté, il fait un droit de retrait. Donc, et nous avons l'obligation de résoudre le problème. C'est une obligation qui nous est faite aux employeurs.
D'accord, très bien, Alfred. Donc, vous commencez votre procédure. On ne va pas passer sur tous les éléments, sauf qu'à un moment donné, on dit, attention, dans la procédure de la direction, même si la cause est connue, dans la procédure, c'est-à-dire dans la forme. J'insiste sur la notion de forme parce qu'il y a des procédures dans lesquelles on ne va pas au fond parce que la forme n'est pas bonne. Donc, dans la forme, on dit il y a un problème dans ce licenciement parce que au moment où il fallait convoquer la salariée, soit elle est en congé de maladie ou autre, soit elle ne peut pas venir avec son syndicat. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez rencontré cette salariée, vous, et le syndicat, comme ça doit se faire normalement?
Alors, dans ce dossier, il y a beaucoup de dilatoire qui a été fait. La technique qui consiste, après avoir commis un méfait ou une bêtise, qui consiste à se mettre en accident de travail, c'est une technique qui consiste à bloquer la procédure, toutes les procédures de sanction. Pendant l'accident de travail, pendant l'arrêt de maladie, on ne peut pas convoquer le salarié. Ensuite, la salariée en question est partie en formation.
Avec l'autorisation de son entreprise.
Oui, parce que c'est un dossier qui était engagé depuis de longues dates, et donc avec l'autorisation de son entreprise. Cependant, être en formation n'interdit pas d'être convoqué par son employeur. Ce d'autant que, alors, on parle de congé. La salariée, pendant les congés de la Toussaint, le centre de formation était fermé. La salariée avait la faculté de revenir dans son entreprise ou de poser ses congés. Mais elle dépose ses congés au sein de son entreprise. Il se trouve que la salariée, au lieu de déposer ses congés comme cela est pratiqué dans l'entreprise, auprès de son supérieur hiérarchique, elle l'a déposé à la RH. Aux ressources humaines, lesquelles ressources humaines a transmis. Et donc, le congé à ce jour de la salariée n'a pas été validé par sa hiérarchie, puisque la hiérarchie doit organiser.
Vous nous dites qu'elle est partie en congé sans votre autorisation, en tout cas de vous dirigeant de l'entreprise.
Tout à fait. Il n'y a pas de validation du congé. Quand bien même on est l'administration, enfin les services ont connaissance. Il n'y a pas eu de validation parce qu'il y a une validation formelle.
Alors Alain Alfred, vous savez que les murs ont des oreilles. Vous êtes en réunion depuis ce matin. Il se dit que l'inspection du travail, elle, trouve que la procédure n'a pas été respectée. Vous avez entendu ça de monsieur l'inspecteur du travail, parce que dehors, il nous a dit effectivement qu'il y a un problème.
Non, l'inspecteur du travail soulève des points qui peuvent être soulevés. Il a fait des observations par rapport alors, il faut savoir que la salariée a été convoquée une première fois, elle n'est pas venue. Et la veille, à 17h, elle a envoyé un mail pour demander report, lequel report lui a été accordé. Et elle n'est pas venue. Et donc, le licenciement a été prononcé dans les délais qui nous étaient impartis et qui étaient possibles.
D'accord. Attendez, Alain Alfred, parce que c'est important. Oui. On a essayé de bien comprendre les choses. C'est pour ça que je vous dis, dans ma question de départ, je vous dis, est-ce que c'est vous ou la CFTU, hein? Vous avez reçu, oui ou non, ce salarié en entretien de licenciement? Oui ou non, est-ce que vous avez reçu cet employé avec son représentant syndical?
Non, dans la mesure où elle a elle-même fait échec à cette rencontre. Nous ne l'avons pas reçue dans la mesure où elle a fait échec à ces rencontres qui lui étaient proposées. Ensuite, nous disons très clairement que si la salariée est lésée, s'il y a un vice de forme, parce que le fond vaut aussi. Et le fond a une importance peut-être plus capitale que la forme.
Enfin, vous avez peut-être raison, mais pour vous qui aussi, qui avez une carrière politique, vous savez qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas inéligibles parce qu'il y a un problème sur la forme. Bon, on ne va pas revenir sur... Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, par contre, sur le fait...
Le fond est très important.
Oui, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison. C'est que si la salariée considère que sa procédure de licenciement n'est pas respectée, elle a des recours pour le faire. Sauf que les recours qu'elle a choisis, elle, c'est de prendre son syndicat et de bloquer l'entreprise et de bloquer la Martinique. Ce que je veux dire, j'entends ce que vous dites. Hein. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est si vous avez respecté la procédure. Moi, je pense qu'il y a peut-être une difficulté sur ce point, sur la décision de licenciement alors que la convocation n'est pas faite. Maintenant, je veux dire, ça n'engage
la
que moi.
Non,
pas la convocation, alors que la rencontre n'est pas faite. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous donner un avis dessus parce qu'il y a, à mon sens, au moins une difficulté juridique. Mais ce que je note, Alain Alfred, c'est que, au lieu de s'adresser au prud'homme, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place un rapport de force. Est-ce que vous me confirmez cela?
Oui, c'est absolument cela. Et ce que je réponds à cela, c'est qu'il est inadmissible qu'en permanence, on prenne les usagers en otage pour faire pression sur les directions des entreprises, sur la direction de la CFTU singulièrement. Et qu'à force de faire cela, nous n'arrivons à résoudre rien du tout. Donc il y a des voies de recours qui sont du droit. Moi, si le tribunal considère que la salariée doit être réintégrée, je n'ai aucun problème, y compris à répondre aux injonctions du tribunal jusqu'à accorder des dommages et intérêts. Mais il est d'une extrême importance que l'on comprenne que ce qui importe, c'est que le comportement soit respectueux du droit et soit conforme au vivre ensemble.
Bien sûr, parce que il y a quand même un pays qui fonctionne avec des gens qui attendent du service. Alors, on va essayer d'imaginer.
Et les gens qui sont victimes, d'ailleurs, pour les usagers, de comportements qui sont inacceptables et qui, parfois, pour certains d'entre eux, ont des comportements inacceptables. Donc, il ne m'appartient pas de dire que dans ce pays, on peut faire tout et n'importe quoi et puis faire jouer soit le dilatoire ou aller chercher la faute de forme. Non, le droit, même la faute de forme. Une forme viciée, eh bien, c'est le tribunal qui doit, dans un monde normal, qui doit dire et qui doit permettre. Moi, je n'ai pas de difficulté à ce que le juge apprécie de la situation et qu'il donne son point de vue.
Alors, Alain Alfred, je crois que nous avons expliqué les choses. Maintenant, on va essayer de comprendre les dessous de l'affaire parce que voilà aujourd'hui que vous avez un licenciement et on se rend compte que vous arrivez, qu'il vous remonte une plateforme de revendication, d'accord, puisque c'était ça la base. Il fallait la réintégrer et pour pouvoir, reprendre le travail, il faut passer par un règlement intérieur, mais sur lequel on dit que pour commencer par autre chose, il faut d'abord la réintégrer pour discuter du règlement intérieur. Alors bon, je veux dire, on connaît ça aussi. Maintenant, ce que je voudrais comprendre, c'est quels sont, Alain Alfred, ces autres points de revendication qui, aujourd'hui, vous sont... c'est quoi cette plateforme de revendication?
Alors, il s'agit d'une alerte, hein, un droit d'alerte qui est posé. Et comme je vous l'ai dit, ça nous oblige à pouvoir discuter au plus vite, en urgence, sur chacun des points qui sont exposés. Donc, la première question, c'est le respect de la réglementation sociale. Donc, nous avons voulu les entendre sur ça. Il se trouve que, bon, là-dedans, ils mettent surtout la question du licenciement.
Alors, cette plateforme vous est remise de quel jour?
Cette plateforme nous est remise le 11 novembre.
C'est-à-dire dimanche.
Alors que nous avons été bloqués dès samedi, dimanche à 11h, parce que je suis venu discuter et négocier.
Donc, respect des éléments sociaux. Qu'est-ce qui n'est pas respecté ici? La sécurité à jour, les trucs, tout ça, c'est à jour, Alain Fred?
Je crois que la CFTU est, en tous les cas, dans le réseau, une norme sociale qui me semble, en tous les cas, acceptable, mais certes, sans doute perfectible. Et donc, s'il faut perfectionner, nous allons perfectionner.
Sur ce point-là, pour vous, il n'y a pas de problème.
Moi,
ce qu'il faut améliorer, on l'améliore. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre point?
Autre point, c'est le règlement intérieur. Alors, la question est de savoir que le point sur lequel nous nous sommes appuyés, enfin, que nous avons évoqué dans le courrier de licenciement, le point qui indique que la faute qui est reprochée aux salariés est une faute grave, eh bien, c'est un article qui est dans le règlement intérieur, lequel règlement intérieur est visé dans le contrat du salarié en question. Hein. Eh bien, on n'est pas d'accord sur ça et qu'il faudrait revoir ça pour que l'on puisse...
C'est ça, c'est-à-dire que... Oui.
Je rappelle.
Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, je suis prêt à revoir le règlement intérieur, ou bien vous dites, si au prud'homme, non, que non, les prud'hommes fassent leur job. Qu'est-ce que vous dites?
Je suis prêt à discuter du règlement intérieur.
Vous êtes prêt à discuter donc
absolument
de tout?
Je suis prêt à discuter de tout. Maintenant, le règlement intérieur, je le rappelle, c'est la responsabilité de l'employeur. Le règlement intérieur ne peut pas intégrer des choses interdites par la loi. Et le règlement intérieur, quand bien même il serait silencieux par des choses exigées par la loi, serait considéré comme caduc et donc il ne viendrait pas supplanter la loi.
D'accord. Alors, après le règlement intérieur, qu'est-ce qu'on a à la fin?
On parle des conditions de travail déplorables.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, vous savez, nous, on a fait un petit tour aussi à l'intérieur. Bon, je crois que vous avez fait faire construire un nouveau dépôt. Ça veut dire qu'ici, c'est provisoire. Mais enfin, c'est quoi le problème? Pourquoi vous ne déménagez pas? Parce que ça a l'air compliqué quand même. Hein, Alain-Alfred?
Oui, tout à fait. Nous avons...
Vous êtes près de la mer avec des trucs, les embouts. Enfin, je veux dire, pourquoi vous ne partez pas d'ici? C'est quoi le problème?
Je dirais que pour être au bord de la mer, ce ne sont pas les conditions de travail les plus exécrables. Hein. Bon,
vous faites un jeu de mots.
Non, mais je veux dire... Non, pas du tout.
Ils ne vont pas piquer quand même une tête de temps en temps à la mer. C'est parce que vous êtes en train de dire.
Je veux dire que ce n'est pas ce que l'on évoque lorsqu'on me dit qu'il y a des conditions de travail.
Alors, on évoque quoi? C'est quoi? C'est
la tête. On va évoquer des choses... parfois, on a eu récemment un bus... dans lequel l'eau coulait, d'un tact, nous allons agir là-dessus.
Oui, c'est ça, c'est le fameux bus dans lequel, lorsque le chauffeur regardait le rétroviseur, il y avait des parapluies ouverts dedans.
Non, c'est pas celui-là, mais c'est pas le nôtre.
Non,
c'est pas
je vous dis
mais
pourquoi.
C'est, monsieur... c'est un peu comme ça. Oui. Nous avons eu récemment, lors de l'épisode plus vieux, un chauffeur qui a été mouillé et relativement trempé parce que, le bus, il y avait des endroits où l'eau passait. Donc, là-dessus, moi, je suis OK pour faire le point, éventuellement bus par bus, pour résoudre les problèmes ou les désaffecter.
Oui, dans les conditions de travail aussi, Alain-Alfred. Vous savez, on essaie de rentrer dans les choses. Hein,
oui, dans le détail.
C'est pas, disons, la relation personnelle que nous avons qui fera que je serai sans concession avec vous, et vous le savez. Oui. Hein, on a cette habitude.
Mais je demande ça.
Et vous savez que s'il faut vous rentrer dans l'interrogation... Mais ce qui est important, c'est que la population comprenne, et je vous remercie de jouer le jeu. Ils disent, on a 54 bus, mais il y en a 30 qui sortent, parce qu'il y en a 20 qui sont en panne, que plusieurs commandes de bus n'ont pas été faites, que ces bus sont à la limite de... j'aurais déjà dû être changé 3 fois. Alors on sait les difficultés financières que vous avez. Alors, c'est quoi le problème? C'est de l'eau qui dépasse les farines, c'est on n'en veut plus, c'est quoi l'objectif? Parce qu'il y a aussi... Il y a aussi ces espèces d'éléments qui font que pendant toute l'année, ça va, et puis dès qu'il y a un conflit, dès qu'il faut négocier quelque chose, on rappelle que le tracteur n'est pas bon, on fait un doigt de retrait sur un camion, mais c'est un camion qu'on utilise lorsqu'il faut faire son déménagement personnel. Enfin, je connais ça aussi, hein, oui, vous savez. Alors, dites-moi exactement, est-ce que c'est vrai, oui ou non, que sur 54 bus, il y en a 24 qui sont malades?
Alors, nous avons des bus qui sont régulièrement en panne. Nous avons des bus qui rentrent pour un ci, pour un ça, pour des choses importantes, pour des choses moins importantes. Mais régulièrement, le service de maintenance a cette difficulté. Nous avons des bus qui sont fatigués, effectivement. Et nous avons un programme d'achat de bus.
Le
programme d'achat de bus dépend... de l'accompagnement financier que l'on peut avoir et aussi d'une possibilité de défiscalisation. Alors, je rappelle simplement que pour renouveler la flotte et le nombre de bus qui nous est nécessaire, nous avons tablé sur une trentaine de bus, 30 à 40 bus.
30 bus neufs.
30, bus à, 30 à 40 bus neufs.
Quel budget,
le budget, il est pour la CFTU seulement de plus de 7 millions.
D'accord. 7 millions comprenant donc l'achat des bus, ça veut dire quoi ça veut, oui, mais l'équipement global par rapport à ces 30 nouveaux, enfin à ces 7 nouveaux bus, c'est ça que vous avez. Combien de bus 30 nouveaux bus. L'équipement, enfin, au-delà de la défiscalisation de tous ces éléments-là, c'est quel budget 30 bus?
C'est les 7
millions. D'accord. Y compris donc toute possibilité d'autofinancement, de machin, de déficit. 7 millions.
Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un montage financier qui est en cours. Et ce qu'il faut surtout comprendre, effectivement, il y a des bus qui n'ont pas été achetés par les années. D'ailleurs, qui m'ont précédé les années où je n'étais pas président.
Vous êtes président, rappelons depuis combien de temps?
Je suis président depuis juillet 2016.
D'accord. Bon, donc ça fait deux ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous reprocher à vous, Alain Alfred, que les bus qui sont en panne. Mais vous savez, je connais ce genre de choses. Hein. Vous prenez une entreprise il y a six mois, on vous dit que les tracteurs qui sont là ne sont pas bons. Hein. Bon, bref. Alors, non, attendez, je veux continuer à. Je vais vous laisser la parole, mais il y a quelque chose que je veux comprendre. Sur ces 30 bus que vous allez acheter, vous devez déménager d'ici. Le dépôt, il est fini ou il n'est pas fini? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, le dépôt, ça aussi, c'est encore une autre chose. Le dépôt qui a coûté 17 millions d'euros, enfin, c'est le dépôt, c'est le centre technique du transport qui se trouve à Rivière-Roche. Nous avons terminé des gros œuvres. Nous devrions déménager en fin 2018, début 2017.
Est-ce donc que c'est fini, Alain Alfred?
Il est terminé.
Il est fini.
Il est
L'équipement est dedans. Alors, le matériel est dedans. Il est équipé. On peut travailler dedans.
Il est en train d'être
équipé.
Il est en train d'être équipé.
C'est quoi le problème? C'est un problème. Il n'est pas fini. Pourquoi? Parce que les difficultés que vous avez financières. Expliquez-nous. Ce que je voudrais, Alain Alfred, c'est que vous expliquiez à la population vos difficultés. Parce que vous êtes président. Vous êtes président d'une société, qui est une société d'économie mixte, sur laquelle je crois qu'il faut que vous rappeliez aussi quels sont les actionnaires. Rappelez-nous les actionnaires.
Alors, les actionnaires sont la ville de Fort-de-France et la CACEM, pour le moment. Et puis, pour un petit 20%, une société dans laquelle la Caisse des dépôts est actionnaire, qui est la société Transdev. Donc, Transdev, c'est le transporteur qui nous a permis de faire ce que nous avons conçu au départ sur cette société d'économie mixte, c'est-à-dire du transfert de compétences. Alors, la chose à comprendre, c'est que nous avons une délégation de services publics qui, depuis sa mise en service en 2010, a fait apparaître un certain nombre de pertes d'exploitation qui sont surtout liées au fait de la recette, c'est-à-dire le ticket qui n'est pas payé. Donc, on a eu une perte à hauteur, ne serait-ce qu'à la CFTU, de 1,2 million par an pendant plusieurs années. 1,2 million, ce sont des bus aussi qui ne peuvent pas être achetés.
Oui, 1,2 million, c'est 1,2 million multiplié par 5 ans, ça fait les 7 millions qui manquent pour acheter les deux. Alors, sur ce point, attendez. Sur ce point encore, c'est important, je vous interromps et je vais vous expliquer pourquoi je vous interromps. Les chauffeurs disent les 50% de la clientèle aujourd'hui ne paye pas le bus. La direction ne fait rien. Y a des investissements qui sont faits sur des machines. On a acheté des machines pour pouvoir vérifier. Elles ne sont pas bonnes, elles sont trop grosses, machin et compagnie. Mais on ne fait rien à la direction. Et la petite salariée qui est injuriée, qui a dit à celui-là d'aller voir si sa maman n'était pas derrière le pied de cacao, il y a qu'à foutre dehors. Alors, moi, ce que je voudrais, je sais bien que vous êtes le dirigeant de cette boîte, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est est-ce que vous n'avez pas, vous, président, aujourd'hui, un machin qui est ingérable?
Si on veut faire l'amalgame, mélanger tout, effectivement, c'est ingérable. Mais si on veut regarder les problèmes les uns après les autres et puis regarder ce qui est possible de faire, à quel moment il est possible de le faire, là, on trouve un chemin et des solutions. Alors, s'agissant des personnes qui ne payent pas, nous avons doublé le nombre de contrôleurs qui étaient prévus dans le cadre de la DSP. C'est-à-dire que vous savez, quand on répond à une délégation de service public, l'exploitant dit « je vais faire ça, je vais faire ci ». Sauf que nous avons certainement tous ensemble mal apprécié dès le début, en 2010, les comportements des individus qui ne payent pas. Et donc nous avions prévu un certain nombre de contrôleurs. Aujourd'hui, nous en sommes au double. Oui, nous faisons des contrôles accompagné de la police et de la gendarmerie,
et il paraît que les contrôles qui sont faits avec la police et la gendarmerie, le truc est nickel, que les gens payent tout de suite. Alors, ça veut dire que c'est les usagers. Alors, les usagers, ils payent pas. Pourquoi? Vous êtes peut-être renseigné. Ils n'ont pas les payer, ou bien ils peuvent pas payer. C'est quoi? Vous avez fait une petite enquête. C'est quoi? C'est bordel? C'est finalement la ville de Fort-de-France? C'est bail public? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que, par exemple, le nouveau TCSP, il paraît que le nouveau TCSP, pareil, il est plein, mais la moitié des gens n'ont pas payé non plus?
Oui, bien évidemment, parce qu'en fait, alors, je ne dirais pas que les gens ne peuvent pas payer. Les gens ne payent que même pas un quart du prix, du coût du transport. Même pas un quart. Le reste, c'est l'autorité délégante qui paye. Et donc, le quart ne vient pas. Mais le quart, ça représente des millions. Et c'est le risque que les entreprises prennent. Le risque qu'ils ont, sur lequel ils se sont engagés. Quand ils n'ont pas cet argent-là...
C'est l'équilibre aussi.
C'est ça qui équilibre les comptes. Lorsque cet argent-là ne vient pas, ce sont des investissements qu'on ne peut pas faire. Ce sont des choses que l'on ne peut pas développer. Alors... Sur la question des contrôles, nous faisons des contrôles avec la police et la gendarmerie. Lorsque moi, ça m'est arrivé de faire un contrôle, le premier contrôle, rendez-vous pris avec la police, le premier contrôle qui est fait, les policiers tiennent un bonhomme dans le bus qui n'a pas de ticket, qui est en séjour irrégulier et qui a de la drogue sur lui. Et les policiers... parce qu'ils ont leur procédure à faire, parce que c'est celui qui a saisi, qui a pris en flagrant délit, qui doit faire la suite. Eh bien, les policiers nous abandonnaient dans notre contrôle. Heureusement que j'étais là, que j'ai pu interpeller le DDSP, qui a renvoyé une autre équipe pour nous accompagner. Mais il faut savoir que c'est extrêmement compliqué. Les gens... Alors, il y a une chose que je peux retenir, c'est... D'abord, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils considèrent que c'est gratuit et puis c'est tout. Je reconnais qu'il n'y a pas de tarif social. C'est-à-dire que nous avons un tarif grand monde pour les personnes âgées. Nous avons un tarif pour les scolaires, des abonnements, je parle, d'abonnements. Il faudrait peut-être aujourd'hui que l'on mette en place, et ça c'est avec l'autorité délégante que ça doit se faire.
C'est-à-dire la CACEM et Ville de Fort-de-France?
Non, c'est avec Martinique Transport désormais, qui est autorité délégante de tous les transports à la Martinique. Il faudrait que l'on conçoive
Mais dans le cas de ce qui se passe à Fort-de-France, de la CFTU, maintenant, vous voulez me dire que la Ville de Fort-de-France... n'a plus rien à voir dans ça. Maintenant,
La CACEM et la ville de Fort-de-France sont membres du conseil d'administration de la Martinique Transport. Ils ont un représentant. Ah, oui, très bien. Par contre,
Tout est transféré à Martinique.
C'est Martinique Transport qui gère tout le transport. Le tarif social, un abonnement social qui permettrait à quelqu'un qui ne travaille pas, parce que pour les scolaires, il y a quelque chose, pour les salariés, il y a quelque chose, pour les grands mounes, il y a quelque chose. Et donc, ces personnes-là peuvent avoir leur carte cohésion, leur abonnement, leur permettant de payer correctement, avec compensation pour les grands mounes. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, il faudrait inventer la même chose, parce que ce sont singulièrement des jeunes ou des personnes un peu moins jeunes, mais qui ont comme caractéristique de ne pas travailler. Et ces personnes, il n'y a rien qui existe leur permettant d'avoir un abonnement. Je rappelle que les abonnements permettent aux gens de ne pas frauder, de prendre le bus comme ils veulent, oui, puis, s'ils veulent et là où ils veulent.
Oui, et puis ensuite, d'être identifié comme ne pouvant pas le faire. Alors, je comprends bien votre idée, parce que c'est vrai qu'elle est très sympathique. Mais puisque vous me permettez de comprendre un peu davantage les choses... Alain Alfred, Monsieur Marie-Jeanne vous a confié un TCSP.
Oui. Oui.
Vous confirmez que oui.
Oui, monsieur Marie-Jeanne, mais je dirais même avant lui, puisque...
C'est lui le boss.
Oui,
aujourd'hui,
c'est lui le boss, l'autorité de l'État.
Je veux savoir, est-ce que ce matin à 7h, vous avez déjà appelé monsieur Marie-Jeanne pour lui dire, monsieur Marie-Jeanne, les bus que vous m'avez appelés ne tournent pas?
Ah, non, je l'ai fait dès samedi. Samedi matin, j'ai appelé la directrice générale de Martinique Transport pour lui dire que je me tenais à la disposition du président de l'autorité pour venir m'expliquer.
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Eh bien, écoutez, d'abord, elle a entendu tous les éléments, elle les a pris en considération, elle sait les difficultés, puisque nous travaillons en permanence pour produire des éléments de qualité à cette instance, pour qu'elle puisse prendre ses décisions, pour qu'elle puisse maîtriser les éléments. Et donc, nous sommes redevables d'informations par rapport à Martinique Transport. Et ça, nous tenons à le faire. Donc, je suis encore à la disposition de Martinique Transport à tout moment pour restituer des éléments d'information. Ça, il va de soi. Cependant, ce que j'indique, c'est que nous avons une vraie difficulté dans ce réseau, qui est la difficulté, et je l'ai déjà évoqué avec Martinique Transport et avec l'ensemble des syndicats, parce que je dois discuter avec tous les syndicats du réseau en tant que mandataire du délégataire. Le délégataire, c'est le GME, le groupement d'entreprise autour de la CFTU, et nous en sommes le mandataire. La CFTU est le mandataire, et moi particulièrement. Nous avons obligation de respecter un certain nombre de choses, un cahier des charges, derrière, nous sommes redevables d'informations, à la fois aux usagers et à Martinique Transport. Alors, nous avons rencontré régulièrement les syndicats, notamment je suis en discussion aussi avec le syndicat CSTM, qui a posé un préavis de grève et au titre des autres entreprises, puisque la CSTM n'est pas présente à la CFTU. Donc, je discute avec M. Cambusi.
Pour votre information.
Pour votre information.
Oui, je vous laisse terminer. Je vais vous donner une info peut-être qui va... On vous écoute.
Alors, nous avons d'ores et déjà discuté avec l'ensemble des syndicats sur la nécessité de concevoir à la Martinique un service minimum pour que, au motif de tout ce qu'on veut, qui sera important de débattre, eh bien, à ce motif-là, les usagers ne soient pas pris en otage et que le droit de grève ne soit pas pour autant remis en cause. Moi, je reconnais totalement le droit de grève, mais il y a aussi à discuter de comment on fait pour que les usagers eux-mêmes ne soient pas en difficulté et en difficulté longue. Ça doit se faire sous l'égide de Martinique Transport. J'en ai discuté encore ce samedi avec Martinique Transport. J'en avais discuté avec les syndicats. Cependant, nous sommes en phase à la fois de NAO et de d'élection professionnelle. Ce n'était pas forcément le bon moment pour engager ça, mais malheureusement, les faits nous devancent. Ça aurait été nécessaire pour résoudre les difficultés des usagers en ce moment.
D'accord, très bien. Écoutez, Alain-Alfred, Oui, j'avais une information à vous donner, je vous la donnais. Je voulais simplement vous dire qu'avant de venir vous rencontrer, je suis allé interroger M. Cambusi, parce que ça me paraissait important d'entendre toutes les voix. Et M. Cambusi a déclaré à notre micro, celui d'ici Martinique, Fusion et Macacla et compagnie, qu'il n'est pas en grève. Il indique bien qu'il y a effectivement un préavis qui était déposé il y a un mois, mais que lui n'a pas appelé à la grève. Ça me paraît important de
préciser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dès qu'un syndicat m'envoie un préavis de grève, j'ai obligation de lui répondre. Normalement, c'est ça, et de négocier. C'est ce que j'ai fait. Il m'a interpellé en me disant « ce courrier vaut préavis de grève, même s'il n'est pas dans mon entreprise, mais il m'a interpellé au titre du réseau. » Donc j'ai demandé et je l'ai reçu mercredi dernier. Je dois le voir ce mercredi pour lui restituer les éléments que je suis allé récolter auprès des co-traitants et des sous-traitants. Et donc voilà, là c'est un fonctionnement normal de la relation dans le cadre du dialogue social.
Très bien. Eh bien, écoutez, Président Alain-Alfred, merci de nous avoir consacré ce temps. Je suis persuadé que ça vous fera du bien, que la Martinique sache les difficultés dans lesquelles vous êtes, parce que c'est vrai qu'on veut tout politiser, on veut tout amalgamer, et il me semble que, puisque nous sommes un média qui a la possibilité de donner du temps, qu'on ait pris le temps, ceux qui ont pris le temps d'écouter auront pris aussi donc le temps de comprendre. Je vous remercie et je vous laisse le dernier mot, Alain-Alfred.
En tous les cas, je vous remercie de prendre le temps à la fois de l'écoute, de l'explication. Pour faire une bonne démonstration, il faut du temps, et ça ne veut pas dire que pour autant on aura joué dans l'esprit des gens. Les gens vont tout simplement entendre l'explication, en tous les cas des parties, de toutes les parties. Je souhaite que les représentants du personnel s'expriment, mais je ne prends pas les choses au niveau politique du tout. J'ai une responsabilité à la fois d'employeur, mais aussi une responsabilité vis-à-vis des usagers, et c'est de ça dont il s'agit. Je dois un jour donné prendre toutes mes responsabilités pour veiller à ce que le respect règne dans le réseau et entre les salariés.
Merci Alain-Alfred.
Merci.